franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, une nouvelle méthode de reproduction sans ovocytes, une grande première aujourd'hui pour la science.
Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?
Voilà, petite parodie des nuls d'une publicité bien connue. Depuis plus de 200 ans, les scientifiques étaient persuadés que la présence d'un ovocyte était indispensable au développement normal d'un embryon de mammifère. Eh bien, c'est désormais terminé apparemment. Publication dans la revue Nature Communication qui rebat totalement les cartes de la biologie. Bonjour Gabriel Livera.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en studio. Vous êtes professeur à l'Université Paris 7 et responsable du laboratoire de développement des gonades à Fontenay-aux-Roses. Comment d'abord est-ce que vous avez réagi à la lecture de ces travaux ?
Ah, j'ai salué une avancée notable, oui, de notre compréhension des mécanismes de reproduction. C'est pas tous les jours.
Oui. C'est une grande avancée.
C'est une avancée importante. Oui. C'est une avancée très importante parce qu'on n'avait pas de point de comparaison jusqu'à présent à la fécondation. Et là, on a une autre façon de faire à partir d'un gamète mâle un organisme vivant et apparemment relativement normal.
Alors, comment fait-on des bébés sans ovocytes ?
Et des bébés souris, donc, des bébés en souris, particulier, oui, bien sûr, dans ce cas précis.
Alors, ce que ces deux équipes ont fait, c'était au début de partir toujours d'un gamète femelle, mais ils n'ont pas fait la fécondation au moment du gamète femelle. Ils ont activé artificiellement ce gamète pour qu'il commence à se diviser. Et à partir de là, ils se divisent en faisant des mitoses, les divisions que font toutes les cellules. Et c'est au moment de la première division où ils ont injecté le spermatozoïde dans cet embryon. Donc cet embryon, c'est ce qu'on appelle un parthénogénote. Il est issu de la parthénogénèse, le développement d'un œuf vierge. Mmh. Et jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à produire un organisme vivant en injectant après l'étape du gamète femelle mature. C'est ce qui a été fait.
Donc cette étape vient d'être franchie. Hein.
Elle vient d'être franchie et on pensait que ça n'était pas faisable. Ouais. Donc à chaque fois qu'on réalise l'impossible, c'est une avancée.
Est-ce que cette technique a un nom particulier qu'il faut retenir ?
Alors, les chercheurs ont baptisé cette technique FICSI, PH, parthénogénote haploïde, ICSI pour intracytoplasmique sperme injection, puisqu'ils ont injecté le spermatozoïde dans un embryon parthénogénétique qui est haploïde, puisqu'il ne contient que la moitié du génome, la moitié maternelle.
J'ai lu dans la presse ce matin des titres « Bientôt des bébés sans maman ». Est-ce que c'est vrai de dire ça ?
Alors non, il y a une maman, il y en a même deux dans ce cas-là, mais... Pour réaliser l'embryon parthénogénétique, il faut à la base un ovocyte qui vient d'une souris femelle. Et la deuxième maman, c'est celle dans laquelle on a réimplanté les embryons. C'est une maman porteuse. Voilà.
Quelle différence avec le clonage, alors qui paraît vraiment traditionnel maintenant quasiment dans les façons de faire ?
Alors dans le clonage, on part d'une cellule diploïde.
C'est-à-dire ?
On part fréquemment d'une cellule diploïde qui a un génome complet, à la fois paternel et maternel. Et souvent d'une cellule diploïde qui a des caractéristiques souches. Donc ça marche bien, la cellule est suffisamment naïve, assez totipotente, ça veut dire qu'elle peut recréer tous les tissus pour former un organisme entier. Mais ça, quand je dis ça marche bien, ça marche à hauteur de 1 ou 2% aujourd'hui où la technique a beaucoup évolué. Ici, on a une efficacité qui est redoutable et on part du gamète mâle, le spermatozoïde, qui est un génome haploïde, seulement la moitié du génome.
Est-ce qu'on peut dire qu'un clone, c'est une copie, alors que là, les individus obtenus ont un père et une mère, ou est-ce qu'on ne peut pas le résumer comme ça ?
Alors tout à fait, toutes les cellules des souris qui sont nées ont un génome biparental, donc avec un génome paternel et un génome maternel. Alors que dans le cas d'un clone, on parle de clone isogénique, ils ont exactement le même patrimoine génétique qu'un seul individu par an.
Gabriel Livera, dans quel état sont les petites souris là aujourd'hui ? Alors justement, vous disiez qu'apparemment elles étaient assez viables.
Alors ces souris se sont développées très bien. Elles ont grandi, elles ont vieilli. Pour certaines, elles sont mortes et elles ont vécu normalement 1 an et demi à 2 ans.
Ouais,
elles
donc se sont reproduites. Leur vie de souris, durée de vie normale.
Ouais. Voilà.
Elles se sont reproduites aussi.
Elles se sont reproduites aussi.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du clonage, on a quelques pathologies qu'on peut observer assez fréquemment, comme des surpoids ou des hypercroissances ou un développement un peu exagéré du placenta qui n'ont pas été observés dans ces cas-là.
À quoi ça pourrait servir ? Parce que c'est la question qui se pose, évidemment. Il y aurait des applications, là, concrètement, même pour l'humain, bien sûr ?
Alors, tout de suite, je tranche. Le grand progrès, c'est la compréhension et la biologie fondamentale.
Ouais.
comprendre.
Donc la connaissance.
Comprendre la reproduction, après, ça a toujours des applications pour traiter les cas d'infertilité. Mais dans les prochaines années, c'est de la compréhension. On a aujourd'hui un point de comparaison par rapport à la fécondation classique, une autre façon de faire un organisme vivant entier, une autre façon de décompacter le génome mâle.
Dans le communiqué de presse, les chercheurs évoquent quand même la possibilité d'utiliser cette technique pour favoriser l'obtention d'espèces en voie de disparition. Est-ce que vous y croyez pour bientôt ou...
Ça m'a l'air compliqué aujourd'hui. Il y a d'autres façons de faire pour faire reproduire des espèces artificiellement. Et puis, il faut toujours à la base un ovocyte et un spermatozoïde. Donc, quand on a ça, on peut faire simplement une fécondation in vitro ou une ICSI. Normal, au bon moment, au moment de la fécondation.
Gérald Brunner, Étienne Klein, un bel exemple là aussi, justement d'innovation dans ce domaine de la reproduction. Gérald Brunner.
Je ne le souhaite pas à mes collègues, mais là on est effectivement sur des zones limites et probablement sensibles, puisqu'on touche au vivant, au secret du vivant, à la reproduction, etc. C'est typiquement le thème, encore une fois je dis, je ne le souhaite pas aux collègues, mais c'est typiquement le thème sur lequel il pourrait y avoir des levées d'armes, par exemple, en réclamant des mesures éthiques de retrait, comme il y a eu sur les cellules souches, etc. Il faut se souvenir de cela.
Oui, ça illustre bien notre propos, parce que vous avez parlé de progrès dans la connaissance, qui va peut-être engendrer des techniques innovantes qui, elles, peuvent inquiéter. Et donc, ça veut dire qu'un progrès dans la connaissance n'est plus synonyme de progrès tout court.
Oui, c'est le passage du fondamental à l'application aussi.
Et d'un point de vue éthique, où pourraient se situer les potentiels problèmes que soulève Gérald Brunner ?
Dans l'absolu, aujourd'hui, il n'y a aucune application humaine directe de ce qui a été fait. Ce qui est très joli, c'est la compréhension des mécanismes, donc de la biologie fondamentale, encore une fois. Ce qui change légèrement, c'est le statut de l'embryon parthénogénétique, du parthénogénote, puisqu'aujourd'hui, on était persuadé que ces embryons étaient incapables de donner naissance à un organisme vivant. On se sentait assez libre de travailler avec. Aujourd'hui, il va falloir faire légèrement plus attention, mais encore une fois, dans le cas de l'espèce humaine, ce sont des choses qui sont très loin de toute application.
Étienne Klein.
Oui, le communiqué de presse que vous avez lu me semble lui aussi symptomatique. C'est-à-dire qu'il y a une découverte fondamentale.
Bien sûr.
Et tout de suite.
Obligé de dire,
c'est tout de suite.
C'est tout le temps. Une promesse de dire à quoi ça pourrait servir.
Mais pourquoi?
Ça veut dire que la connaissance n'est plus considérée comme une valeur en elle-même.
Suffisante.
Elle est mesurée à l'aune des applications qu'elle rend possible.
Si ça se trouve, les chercheurs eux-mêmes n'ont pas proposé cette idée dans le communiqué et ça a été rajouté par les services de communication.
C'est certainement possible.
Gabriel Livera, en tout cas, merci beaucoup. C'est assez complexe à comprendre dans cette technique tout à fait particulière, mais en tout cas, on a perçu un petit peu l'avancée dans cette technique de procréation. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science. Et Axel, à demain.
Et oui, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'espèce de corbeau Alala, c'est son nom, très habile pour manier les outils. Des chercheurs viennent de prouver que ce corbeau hawaïen utilise des outils mieux que ses congénères ailleurs dans le monde. Ils utilisent notamment des brindilles pour aller chercher de la nourriture cachée dans de petits trous des troncs d'arbres. Les chercheurs relatent dans Nature que l'apprentissage pourrait être inné, les jeunes corbeaux utilisant les outils sans qu'aucun adulte ne leur ait montré comment faire. Des exemples vidéo de l'habilité des alas sont à retrouver sur le site de l'émission. Un jour, vous parlerez au téléphone avec un robot sans même vous en apercevoir. WaveNet, la nouvelle intelligence artificielle de DeepMind, la filiale de Google, est capable maintenant d'imiter la parole humaine avec une efficacité 50% supérieure aux technologies existantes. Le système, une forme d'intelligence artificielle, fonctionne à l'aide d'un réseau de neurones qui a appris à former des ondes sonores proches de la voix humaine. Reconstruites à l'échelle de la milliseconde, ces voix dévoilées en exemple sont bluffantes. En voici justement un extrait.
Aspects of the sublime in English poetry and painting, 1770 to 1850.
Et il s'agissait bien donc d'un robot. Vous pouvez réécouter cette voix issue de l'intelligence artificielle sur la page Facebook de l'émission. Et puis un coup de chapeau aussi d'informations scientifiques Futura Science qui fait peau neuve et qui devient Futura, présenté comme un nouveau site de décryptage. Il renforce son équipe éditoriale. Ce site de vulgarisation parmi les plus visités du web français propose un design désormais très visuel, mettant en avant la vidéo avec des productions dédiées. Des nouveautés donc à découvrir dès aujourd'hui sur futura-science.fr.